Merci, Monsieur le Président. La Société des Nations, qui est en quelque sorte une première tentative dans l'histoire pour répondre par le droit et la sécurité collective à cette aspiration des peuples à la paix durable après un long conflit mondial qui avait déchaîné une violence extrême, eh bien, cette Société des Nations a suscité en son temps, dans les années 20 et 30, une foi, une espérance tout à fait réelle, attirant vers elle donc des apôtres dévoués qui ont consacré une grande partie de leur vie à la défendre et à la soutenir. C'est en Grande-Bretagne que ce mouvement de soutien à la Société des Nations a connu ses plus notables succès. Mais en France aussi, il a reçu l'adhésion d'une élite, d'hommes politiques, mais aussi de représentants du monde intellectuel qui l'ont animé et avec conviction et dévouement, avec pour certains le sentiment de s'investir dans cette mission de convertir les consciences à la nouvelle religion de la paix par le droit, se considérant explicitement comme de véritables apôtres de l'esprit de Genève, annonçant au monde la bonne nouvelle, comme l'attestent par exemple ces propos du professeur de droit Georges Sell de l'Université de Paris, qui écrira au retour d'une assemblée de la Société des Nations à Genève que pour ceux qui ont vu et compris, le seul devoir consiste à parler toujours. Ou encore cette formule du mathématicien Paul Appel appelant à susciter partout la foi dans la Société des Nations qui seule peut faire sortir l'humanité de ses anciennes violences. Or, ce pacifisme genevois, qui incarne en quelque sorte l'aile la plus modérée du combat pour la paix entre les deux guerres mondiales, et qui s'inscrit ouvertement dans la droite ligne du pacifisme juridique d'avant 1914, a exercé une influence tout à fait notable sur une partie importante de la République des lettres qui nous intéresse aujourd'hui, mais cette dimension, finalement, a jusqu'à présent a été assez peu mise en valeur par rapport à d'autres engagements des intellectuels pour des idéologies peut-être plus radicales. Il faut y voir la conséquence de la légende noire qui entoure la Société des Nations, parce qu'elle a failli dans les années 30. À cela s'ajoute l'effet du syndrome de 1940 qui a plongé le pacifisme dans un discrédit général, l'imprégnation profonde du pacifisme dans la société française dans l'entre-deux-guerres ayant été considérée de manière peut-être un peu abusive comme l'une des causes de l'effondrement de 1940, sans que l'on cherche vraiment à distinguer entre le pacifisme radical, intégral et le pacifisme modéré, juridique. Donc, je vais essayer d'évaluer la place et le rôle des milieux intellectuels français dans ce combat pour la Société des Nations, en essayant de comprendre les raisons de leur engagement et puis, évidemment, aussi les conséquences que cet engagement a pu produire sur leur attitude aux heures les plus funestes pour la paix. Ces associations pour la Société des Nations eurent un recrutement assez tourné vers les élites. Le président de l'Association française pour la Société des Nations, Joseph-Paul Boncour, parlera à la fin des années 30 d'associations dont le recrutement, le climat, pourrait-on dire, les destinait plutôt à la propagande parmi les intellectuels et les milieux éclairés de la bourgeoisie. Longtemps, les masses s'en sont désintéressées. De même, les déclarations d'Henri Pichot à l'Assemblée générale de cette association française en 1925 nous confirment dans l'idée d'une domination des élites intellectuelles dans ce militantisme pour la Société des Nations. Il déclare « Notre organisation comprend deux catégories de membres, une élite intellectuelle qui élabore et organise la doctrine de l'association et une masse d'approbateurs qui font nombre ». Cette petite élite intellectuelle est constituée d'un intéressant mélange d'agrégés de l'université, dont un certain nombre est issu de l'école normale supérieure, et de docteurs en droit, ces derniers embrassant généralement la profession d'avocat ou de professeur d'université. Je serai amené à citer un certain nombre d'entre eux au cours de ma communication. Mais finalement, c'est toute une partie du monde universitaire dans ses composantes les plus variées, les lettres, les sciences humaines, les sciences juridiques ou les sciences exactes, qui vont peupler ces associations de soutien à l'ASDN, dont il faut bien dire que ce ne sont pas des associations de masse, mais des associations tout à fait élitistes. Et ces intellectuels occupent au sein de ces associations une position de premier plan, notamment dans leur direction. Ainsi, le mathématicien Paul Appel, doyen de la faculté des sciences de l'Université de Paris, puis recteur de l'Université de Paris, devient dès 1918 le président de l'Association française pour la Société des Nations, aux côtés de Léon Bourgeois, qui en est le fondateur. Je pourrais citer évidemment d'autres noms, comme l'historien Alphonse Hollard, qui s'engage pour la Société des Nations avec beaucoup d'ardeur dès la fin de la guerre et qui conquiert une place de premier plan au sein de ce mouvement français et international pour la Société des Nations. En termes de sensibilité politique, il faut bien noter que ces associations sont dominées par des hommes issus de la gauche modérée, et cette couleur politique de plus en plus marquée gêne l'ouverture de ces associations à d'autres tendances, bien que l'apolitisme reste le mot d'ordre de tous ces groupements. Je dis groupement au pluriel parce que finalement l'une des caractéristiques de l'histoire de ce mouvement français pour la Société des Nations dans les années 20, c'est finalement sa diversité et l'impossibilité pour lui de réunir sous sa bannière tous les partisans français de l'organisme de Genève, au contraire du cas britannique où on a une seule et unique puissante association, la League of Nations Union. En France, féministes, catholiques, protestants, francs-maçons développent leur propre structure de soutien à l'ASDN. Et les milieux universitaires n'y échappent pas, puisque est créé dès 1923 un groupement universitaire pour la Société des Nations. L'initiative de ce groupement émane d'un jeune membre, un jeune avocat et journaliste, Robert Lange, le neveu d'Henri Bergson. Et c'est au cours de l'année 1922 que ce jeune homme, qui n'a alors que 19 ans, entreprend de réaliser son idée de groupement universitaire et donc il s'ouvre de son projet à maintes personnalités en France, en Angleterre ou aussi à Genève, dont Pierre Commer, qui est le directeur de la section d'information du secrétariat de l'ASDN et qui soutient son entreprise. Le 14 janvier 1923, le groupement universitaire pour la Société des Nations y tient son assemblée constitutive à Paris, donc le 14 janvier 1923, et on va trouver au sein de ce groupement un certain nombre d'universitaires. Je pense à Jules Badevant, professeur à la faculté de droit de Paris, à Paul Fauconnet, professeur de sociologie à la Sorbonne, et bien d'autres. Évidemment, le problème de cette association, c'est qu'elle fait concurrence à l'Association française pour la Société des Nations, celle de Léon Bourgeois, et que finalement, au printemps 1926, une entente est réalisée entre les deux groupements. Et finalement, si les deux associations vont réussir à fusionner administrativement, les deux associations vont conserver leur existence propre, leurs propres adhésions, leurs propres ressources financières qui, elles, sont unifiées. Au sein de ces associations, donc au pluriel, pour la Société des Nations, quel rôle jouent les intellectuels ? Eh bien, animés par une foi dans l'œuvre de Genève, les principaux activistes pour la SDN occupent des places différentes au sein de ces mouvements. On pourrait d'abord distinguer les patriarches, une catégorie donc constituée par quelques figures historiques du pacifisme sociétaire, des hommes avancés en âge, dont les services jadis rendus à la cause de la paix ou au progrès de l'esprit humain et leur engagement sincère pour la SDN leur valent d'être entourés d'un profond respect. Par exemple, le professeur Charles Richer, prix Nobel de médecine en 1913, le recteur Paul Appel, l'historien Alphonse Allard que j'ai déjà cité et qui font en quelque sorte figure d'autorité morale de ce mouvement pour la société des nations. Malgré le poids des ans, ils savent souvent se montrer des militants dévoués, zélés, tel donc cet historien Alphonse Allard qui, bien que septuagénaire, n'a cessé de multiplier, nous dit-on, ses efforts en faveur d'une idée toute nouvelle avec une ardeur et une conviction que les jeunes ne partageaient pas toujours. Tel Paul Appel aussi, un président à ce point épris de notre commun idéal qu'il n'est pas un jour, pas une heure où son dévouement inlassable et souriant ne se révèle égal à toutes les tâches, à toutes les interventions, à toutes les difficultés. Deuxième catégorie, ce qu'on pourrait appeler les vedettes de ce militantisme, des hommes en vue, de brillants orateurs qui font rayonner ce pacifisme sociétaire. Parmi ces vedettes, incontestablement, se trouve le mathématicien Émile Borel. C'est un homme extrêmement occupé du fait de la multiplicité de ses activités, n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ce militantisme, parce qu'il mène de front une carrière de mathématicien au plus haut niveau, directeur de l'Institut Henri Poincaré, membre de l'Académie des sciences, mais aussi homme politique, député de l'Aveyron, et pour ce qui nous intéresse, pacifiste, président de l'Association française pour la SDN, et il va gravir tous les échelons du pacifisme genevois, devenant en 1938 le président de l'Union internationale des associations pour la SDN. Troisième catégorie, les penseurs, ceux qui finalement sont en grande majorité des professeurs de droit, qui vont donner à cette propagande pour la SDN son contenu intellectuel. Attachés à faire triompher le droit dans la vie internationale, ils se montrent vis-à-vis du pacte de la SDN des gardiens zélés, mais des gardiens exigeants. L'organisme de Genève est au centre de leurs réflexions. Ils s'imposent donc comme des spécialistes de toutes ces questions liées à Genève et à la paix internationale. Parmi eux, on trouve des gens comme René Cassin, Georges Selle, Joseph Barthélémy, Albert Jouffre de Lapradelle, tous donc professeurs de droit. Un exemple peut-être emblématique, celui de Georges Selle, qui est un véritable modèle de cet engagement au service de la société des nations. C'est un excellent professeur de droit, un excellent conférencier, nous dit son rapport d'inspection, vulgarisateur qui rend les plus grands services et sert grandement par son action extra-universitaire les intérêts généraux de l'université. Reconnu par ses pairs, donc, et après la Première Guerre mondiale, complètement tourné vers cette nouvelle organisation de Genève pour laquelle il engage un combat qu'il mène avec un désintéressement absolu, ce qui lui vaut d'ailleurs d'agacer à l'époque le gouvernement Poincaré. On lui reproche son implication dans ce combat pacifiste, alors qu'il est un universitaire éminent. Et ainsi, Raymond Poincaré écrit au directeur de l'enseignement supérieur en lui indiquant que la position défendue par Georges Selle, qui réclame notamment l'admission de l'Allemagne au sein de la Société des Nations, eh bien que cette position est en contradiction absolue avec la politique maintes fois affirmée par le gouvernement français en plein accord avec la représentation nationale. Et donc Poincaré demande à ce qu'on ouvre les yeux de M. Selle sur les dangers de ses initiatives et qu'on l'amène aimablement à mettre plus de discrétion dans la divulgation de ses opinions personnelles. Quatrième et dernière catégorie, ce qu'on pourrait appeler les chevilles ouvrières. Ceux qui, finalement, sont les hommes, les femmes, qui assurent concrètement, au quotidien, le fonctionnement de ces associations de soutien à la Société des Nations. Parmi eux se trouvent des intellectuels, et je voudrais citer, par exemple, le nom de Théodore Huyssen. Théodore Huyssen, qui sera, pendant tout l'entre-deux-guerres, le secrétaire général de l'Union internationale des associations pour la SDN, et qui est aussi un cas exemplaire d'un intellectuel qui a sacrifié sa carrière professionnelle pour enfourcher le combat pour la paix par la Société des Nations. Professeur d'histoire de la philosophie à la faculté des lettres de l'université de Bordeaux, il accepte donc en 1921 le poste de secrétaire de l'Union des associations pour la SDN à Bruxelles, mais il est contraint d'abandonner sa carrière universitaire et de prendre un congé d'inactivité sans traitement pendant 5 ans avant de faire valoir en 1931 ses droits à la retraite, et pour pouvoir se consacrer davantage encore à ce qu'il vit comme une mission. Alors, demandons-nous maintenant pourquoi cet engagement des intellectuels au service de la Société des Nations. Eh bien, il y a des raisons à la fois intellectuelles et des raisons qui sont d'une adhésion plus pratique à un pacifisme qui les séduit. Raison intellectuelle, c'est que finalement, ils ont l'impression que ce nouvel organisme, la SDN, est l'aboutissement d'une longue tradition française. C'est Célestin Bouglé, le sociologue, qui a cette formule, parce que finalement, cette tradition française, eh bien, elle va des projets de paix perpétuelle, de Sully, de l'abbé de Saint-Pierre, jusqu'au solidarisme de Léon Bourgeois, en passant par les grands penseurs du 19e, comme Proudhon ou Saint-Simon. Et cette filiation avec les grands maîtres de la pensée française nourrit chez beaucoup de ses apôtres l'adhésion sincère dans cette nouvelle organisation internationale. Ils sont surtout convaincus que Genève représente un progrès dans l'évolution de la société internationale. Genève est porteur d'un immense espoir que la déception passagère des premiers mois d'existence ne doit pas dissiper. Célestin Bouglé affirme que malgré son apparence bourgeoise et timide, la Société des Nations constitue notre suprême espérance. Joseph Barthélemy, le grand juriste dont les orientations politiques sont tout à l'opposé, confesse lui aussi une grande confiance, déclarant que personne plus que lui n'a une foi profonde dans l'efficacité et dans l'avenir de la Société des Nations. Il faut donc croire en la Société des Nations, lui laisser le temps de se perfectionner. Mais évidemment, ce militantisme ne se veut pas uniquement de la propagande aveugle. On veut être critique vis-à-vis de cette institution. On ne cherche pas à occulter ses défauts. Et il faut bien dire que les Français ont été déçus par le pacte constitutif de la Société des Nations. On avait rêvé plus et mieux, il serait vain de se le dissimuler, écrit Célestin Bouglé, donc professeur d'économie sociale à la Sorbonne. Et Théodore Huysen, philosophe, donc, se dit saisi d'un amer regret à la pensée qu'on pouvait faire mieux encore et que des millions d'hommes sont morts dans l'espoir de préparer à leurs enfants une cité meilleure que celle dont on vient de dresser le plan incertain. Car le pacte de 1919 ne semble pas offrir les garanties suffisantes pour la paix. Pas de force armée internationale, pas d'arbitrage obligatoire. Les idées françaises ont été battues en brèche par les idées anglo-américaines. Et donc, les espoirs de ces pacifistes français reposent sur l'article 26 du pacte qui prévoit la procédure d'amendement. Et finalement, ils ont une confiance, celle que l'avenir appartient aux idées françaises. Georges Sell écrit en 1919 « Le pacte, comme la paix elle-même, est empreinte d'un esprit anglo-saxon fort apparent, indiscutablement pratique. La France s'est inclinée avec un souci méritoire des réalisations et a fait de bonne grâce le sacrifice de ses préférences et peut-être aussi de ses ambitions légitimes. Il appartiendra au clair rayonnement de son génie d'élargir par un patient effort et de renforcer par des améliorations successives l'institution de la Société des Nations. » Beaucoup, évidemment, espèrent dans la Société des Nations et veulent combattre pour vaincre le scepticisme, l'ironie qu'ils rencontrent quotidiennement concernant cette institution. Il faut donc, selon eux, que pour que la Société des Nations arrive à son but, qu'elle soit chaudement soutenue par l'opinion publique. Charles Richer, le professeur de médecine, répète encore qu'à la fin des années 20, son autorité, celle de la SDN, ne dépendra du soutien de l'opinion publique. La Société des Nations doit être fille de l'opinion publique, voilà le mot d'ordre de ces militants. Et on peut dire que de ce point de vue, leur combat a largement failli, puisqu'ils ne sont parvenus qu'assez médiocrement à conquérir l'opinion publique en faveur de la SDN, les associations pour la SDN étant en quelque sorte des états-majors sans soldats. Ils vont donc essayer d'exercer leur influence, et elle sera plus efficace, auprès des gouvernements de la République française. Ils vont notamment essayer de faire mûrir une nouvelle politique extérieure qui serait plus soucieuse d'utiliser la Société des Nations. Cette politique triomphera en 1924 avec la victoire du cartel des gauches et évidemment avec le briandisme dans la seconde moitié des années 20 et au début des années 30. Ces pacifistes genevois finalement se révèlent très critiques par rapport à la politique menée par le bloc national. Et Poincaré est qualifié d'obstiné, d'homme incohérent qui étouffe la haine de nos adversaires, de la désaffection de nos amis, en nous amenant l'été dernier au seuil d'une rupture avec tous les États de l'univers. Et là, évidemment, on fait référence à la crise de la Roure. En 1924, évidemment, tout change. Les militants pour la SDN rendent hommage à la politique du cartel des gauches, à la politique d'Herriot. Et évidemment, dans la seconde moitié des années 20, ils suivent de manière indéfectible Aristide Briand et son combat pour la réconciliation européenne et pour l'utilisation de Genève dans la vie internationale. Et finalement, ils considèrent Briand comme l'incarnation de la France généreuse et bienfaisante. Alors évidemment, les années 30 vont marquer un considérable ébranlement dans ces certitudes, puisque la sécurité collective va connaître un certain nombre de difficultés à partir du conflit sino-japonais en 1931 et à partir de l'échec de la conférence du désarmement en 1932-1933, qui sont évidemment des épreuves douloureuses pour les apôtres de l'esprit de Genève. La grande espérance des années 20 semble mort-née. Quelle sera donc l'attitude de ces intellectuels engagés au service de la Société des Nations ? Début des années 30, il faut bien noter une tentation de trouver les moyens de s'entendre avec les dictateurs plutôt que de risquer une nouvelle guerre. Tel est le cas, par exemple, de l'idée d'un rapprochement avec l'Italie fasciste afin de contrer la menace allemande. Malgré un régime italien si opposé aux traditions démocratiques françaises, certains considèrent qu'il est malgré tout sage, dans l'état actuel de l'Europe, de s'accommoder avec la variété des régimes politiques. Car à l'heure qu'il est, ce n'est pas la démocratie qui importe le plus, n'est-ce pas ? C'est la paix, s'exclame Célestin Bouglé. C'est là évidemment un raisonnement fort dangereux pour l'avenir qui laisse la porte ouverte à bien des dérives et à des illusions. Avec Hitler, les rapports sont évidemment plus complexes. Car depuis son arrivée au pouvoir, les réunions internationales du mouvement pour la Société des Nations ont effectivement vu leur atmosphère un peu changer. On sait désormais du côté français que l'espoir est mince de pouvoir y côtoyer des Allemands libres de parole et sans consigne officielle. Malgré tout, bien des militants français continuent de croire désirable la présence des délégués allemands au sein des réunions internationales du mouvement pour la SDN. La première occasion pour les Français de rencontrer leurs nouveaux homologues allemands se présente à Montreux en juin 1933 lors d'une assemblée plénière de l'Union internationale des associations pour la SDN, au cours de laquelle ils défendent avec une attitude de fermeté les pratiques du nouveau régime allemand. Ainsi, Émile Borel, le 4 juin 1933, propose devant la commission des minorités de faire voter une motion sur les persécutions matérielles et morales dont sont victimes les Juifs ainsi que d'autres catégories de population en Allemagne. Il affiche son émotion face à cette atteinte portée à des principes qui semblaient désormais acquis dans la conscience de tous les peuples. Le chef de la délégation allemande lui répond qu'il ne s'agit que d'un problème purement intérieur et il cherche évidemment à relativiser la violence perpétrée contre certains groupes d'individus, considérant qu'il s'agit d'actes isolés, inhérents à tout mouvement révolutionnaire. Au surplus, ajoute-t-il, certaines des mesures qui ont ému l'étranger n'ont qu'un caractère provisoire et quelques-unes ont déjà été atténuées. Finalement, l'esprit de conciliation l'emporte parmi les délégués l'Assemblée. Et finalement, on se met d'accord sur une résolution modérée qui exprime l'espoir que l'association allemande fasse tous ses efforts pour obtenir le rétablissement dans son pays de l'égalité civile et politique. Au lendemain de la démission de l'Allemagne, de la SDN, certaines voix se font entendre pour réclamer la fermeté à l'égard de l'ancien ennemi. Georges Sell évoque même la possibilité de sanctions économiques en cas de poursuite par l'Allemagne de son réarmement. On imagine que le boycottage commercial du pays de Hitler pourrait se révéler assez efficace à moyen terme et risquerait même d'entraîner la chute de ce régime. Il faut bien dire que cette attitude perd rapidement ses partisans. Jules Prudhomot, un agrégé d'université, exprime vis-à-vis des avancées de Hitler l'idée qu'il serait absurde de se retrancher derrière l'existence de griefs trop réels ou encore derrière l'antinomie des régimes intérieurs pour aggraver une situation déjà tendue. Et beaucoup de pacifistes se laissent convaincre que le régime hitlérien est durablement installé en Allemagne, qu'on ne peut pas l'ignorer et qu'il faut tenir compte de sa soif d'entente, en tout cas telle qu'il la proclame. Et finalement, si aucun de ces pacifistes n'a la moindre sympathie pour le nouveau régime hitlérien, il considère que la réalité politique de l'Europe commande ce rapprochement avec l'Allemagne nazie. Mais cette chimère du rapprochement, caressée donc au début des années 30, finit rapidement par s'effondrer, avec notamment le conflit italo-éthiopien en 1935-1936. L'attitude de fermeté contre la voisine fasciste l'emporte à l'heure. Ce qui vaut donc au pacifisme pour la SDN d'être accusé de bellicisme par un pacifisme radical qui s'affirme de plus en plus comme un concurrent redoutable dans les années 30. Mais contre ces partisans de la paix à tout prix, les militants pour la SDN répètent que la paix a un prix, point de paix hors du droit. Et les militants pour la SDN vont se montrer favorables aux sanctions contre l'Italie. René Cassin estime que la France se trouve désormais à un carrefour. Il faut choisir, dit-il, ou bien une SDN forte, impliquant pour nous des devoirs de solidarité et même certains risques, ou bien une SDN faible, quasi inexistante. Dans ce cas, c'est la faillite ou la guerre qui nous attend à toutes les issues. Pourtant, en 1936, au moment de la remilitarisation de la Rhénanie, cette tendance vigoureuse est en voie d'essoufflement. Pourquoi ? Parce que le mouvement pour la SDN va se contenter d'une réaction assez peu vigoureuse, par crainte de la guerre avec Hitler, et évidemment se trouve à ce moment-là en complète phase avec l'opinion publique. Ensuite, avec la guerre d'Espagne, avec les coups de force de Hitler contre l'Autriche et les Sudètes, on assiste à un redressement moral de ce pacifisme genevois qui va adopter une attitude de grande fermeté à l'égard de Hitler. À la veille de l'Anschluss, par exemple, Georges Sell croit que consentir à la révision des traités sous la menace de la violence, c'est faire le lit des abandons définitifs sans préjudice d'une guerre sans merci. Il souhaite donc que les gouvernements démocratiques signifient à leurs adversaires que désormais, ils ne consentiront plus le plus petit sacrifice à la menace, la plus légère concession au fait accompli. Et donc, Georges Sell se prononce en faveur du choix viril, c'est-à-dire à en revenir immédiatement à une politique de fermeté, de résistance, de défense du droit et de veto irréductible, car le choix de cette politique serait encore le moindre risque. On voit bien ici combien certains pacifistes s'écartent de la voie du pacifisme extrême que certains n'hésitent pas à emprunter et contre lequel René Cassin encore lutte ardemment. Le mot « plutôt la servitude que la guerre » que l'on croyait réservé à certains idéalistes égarés est devenu, dit-il, momentanément la devise de prétendus réalistes. Eh bien non, la servitude, loin de nous protéger de la guerre, ne ferait que nous y précipiter. Pourtant, ce pacifisme plus radical séduit un certain nombre de militants pour la SDN. Ils sont minoritaires, mais ils existent. Jules Prudhomot, dont je parlais tout à l'heure, n'hésite pas à confier, dans une correspondance adressée à Théodore Ruyssen, son pacifisme viscéral. « J'ai causé avec le professeur Sell. Il est effrayant. Puisque nous n'éviterons pas la guerre, cette même année, il faut la faire tout de suite, avant que le Grand Reich ne soit complet, qu'il n'ait bouffé non seulement la Tchécoslovaquie, mais la Roumanie et la Hongrie, qu'il n'ait achevé son armement, mis la main sur les usines Skoda, sur les pétroles roumains, etc. » Quand on entend ça, on a envie de se jeter dans l'objection de conscience, dans le pacifisme total, de tout refuser aux fous qui nous mènent. Malgré tout, Prudhomot n'incarne qu'une tendance minoritaire au sein du pacifisme sociétaire qui est davantage inspiré désormais par les Sell et les Cassin, qui Tous, après le drame de Munich, en appellent plus que jamais à un redressement nécessaire. Nous avons cédé à la facilité d'un pacifisme passif, résigné à tout accepter et à préparer ainsi la guerre par ses abdications successives. Il est temps de se reprendre, s'il en est encore temps. On appelle alors à la création d'une coalition des États restés fidèles à Genève et résolus à appliquer le pacte afin de faire barrage aux puissances fascistes. La plupart des pacifistes genevois se montrent à la veille du second conflit mondial d'une assez grande clairvoyance et finalement appellent la France à faire les sacrifices nécessaires, notamment en termes de réarmement, pour rétablir l'équilibre des forces avec les gouvernements dictatoriaux et ainsi donc sauver la paix. Pour terminer, j'évoquerai le passage de ces années noires de la Seconde Guerre mondiale où finalement peu de militants pour la Société des Nations ont ouvertement rallié le régime de Vichy et la collaboration. Le cas évidemment le plus exemplaire de ce ralliement à Vichy est celui du juriste Joseph Barthélémy, dont j'ai eu l'occasion de parler. Mais la plupart de ces intellectuels vont faire le choix de quitter le sol français ou de résister à l'intérieur. On connaît le parcours de René Cassin qui répond immédiatement à l'appel du général de Gaulle et gagne Londres dès le 20 juin 1940. Il faut citer le cas de Robert Lange, le jeune fondateur du groupement universitaire pour la SDN, qui fuit aux États-Unis, son origine juive, évidemment, le désignant trop probablement à l'arrestation par les nazis. À certains degrés aussi, les pacifistes restés en France ont participé à la lutte contre l'occupant. Théodore Huyssen, ainsi, a fourni des fonds à la résistance. Il a abrité chez lui pendant l'occupation toute une dizaine de malheureux, traqués par la milice ou la Gestapo, dit-il, la plupart juifs, polonais, roumains, hongrois, allemands. Émile Borel est arrêté en 1941 par la Gestapo, en même temps que d'autres membres de l'Académie des sciences, que les Allemands soupçonnaient de sentiments défavorables à l'Allemagne nazie, et il est incarcéré pendant 2 mois à la prison de Fresnes. Sur place, dans sa région d'origine, l'Aveyron, il sera, une fois relâché, lié aux activités de groupes locaux de résistance. Il fournit notamment au chef de la résistance de la région de Montpellier, du réseau Libération Sud, des renseignements sûrs pour l'Aveyron, et il aide le principal groupement de résistance de Sainte-Afrique en lui offrant sa forêt de Saint-Bolise pour en faire un maquis de censé bûcheron. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a bien marqué les limites de ce rêve genevois et finalement l'échec de la Société des Nations ne remettra pas fondamentalement en cause chez ces intellectuels la nécessité de faire reposer la paix future sur le droit. Et en 1945, pour ceux qui ont survécu à la guerre, ils vont défendre avec la même foi sincère l'organisme nouveau, l'Organisation des Nations Unies, croyant voir dans cette nouvelle organisation la satisfaction des revendications françaises en matière de sécurité collective. Néanmoins, la désillusion fut de nouveau au rendez-vous, et cette fois-ci encore plus rapidement que pour le cas de la Société des Nations.